écoutez la web radio du Off en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose Radio.
Osmose Radio. La web radio du Off.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Salut chers amis, de retour sur Osmose Radio avec Stéphane et on va jeter un œil en coulisses, hein. C'est peut-être un petit peu indiscret mais après tout, hein, le jour vous allez voir des spectacles et puis la nuit peut-être que vous faites des cochoncetés, après tout c'est l'été, c'est normal et allez savoir, peut-être que les deux thèmes peuvent très bien faire un petit bout de chemin ensemble avec bonheur et c'est sans doute notamment le cas du spectacle dont on va parler aujourd'hui puisqu'il va être question un petit peu de théâtre et un peu beaucoup d'amour avec ce spectacle, La Chapelle Sextine pour lequel je reçois Jeanne Béziers, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'est serré la main en préparant cette émission et vous ne m'avez pas donné un Bézier, je suis un petit peu déçu.
C'est joli.
Vous ferez pardonner, ben, moi aussi je peux faire des jeux de mots, mais il y en a plein de bien meilleurs sans doute dans votre spectacle. Alors, c'est à l'Entrepôt jusqu'au 23 juillet, donc les dernières représentations sont dimanche, ce week-end, et c'est à 21h30 tous les soirs. L'Entrepôt, ça se trouve boulevard Champfleury, juste derrière la gare, c'est vraiment à deux pas des remparts, donc vous ne pouvez pas le louper. Et ce spectacle, La Chapelle Sextine, est le fruit du travail de votre compagnie qui porte votre nom, Jeanne Béziers. Vous êtes originaire d'Aix-en-Provence, non ?
Ma compagnie s'appelle Ma Compagnie, en fait.
D'accord.
Voilà. Bah,
c'était juste pour m'embrouiller, quoi.
C'est donc Ma Compagnie, mais c'est... Voilà, vous pouvez dire que c'est la compagnie Jeanne Béziers, mais en fait, c'est Ma Compagnie.
D'accord. Excusez-moi, c'est pas très professionnel d'éclater de rire comme ça, mais là, vous m'avez bien eu. Alors donc, par contre, vous venez bien d'Aix-en-Provence, rassurez-moi.
Je viens bien d'Aix-en-Provence.
D'accord. Alors, vous êtes venu présenter ce spectacle, La Chapelle Sextine. Alors, pour ma part, la première idée qui m'est venue à l'esprit en voyant ce mot, ce titre de spectacle, La Chapelle Sextine, bah, ça a été un jeu de mots, tout simplement, entre, évidemment, le travail de Michel-Ange à Rome pour la Basilique Saint-Pierre, la fameuse Chapelle Sextine, et aussi bah, le sexe qui est un petit peu déçu, qui est quand même le sujet principal abordé dans cette pièce-là, dans cette œuvre. Et en fait, vous avez fait référence, sans renier forcément le jeu de mots, vous avez fait référence à un autre aspect de la littérature.
Oui, en fait, effectivement, le jeu de mots évident, c'est la Chapelle Sixtine. Et effectivement, dans ce spectacle, on raconte peut-être des secrets d'alcôve, sinon de chapelle. Mais c'est vrai que l'auteur Hervé Letellier, qui fait partie de l'Oulipo, de l'ouvroir de littérature potentielle, ce groupe d'auteurs facétieux qui existe depuis les années 60 avec Raymond Queneau, Georges Perec, Paul Fournel, Jacques Roubaud, Marcel Benabou, enfin, encore bien d'autres. Donc c'est des gens qui s'amusent beaucoup avec la langue française, avec la littérature, qui se donnent beaucoup de contraintes pour écrire. Et Hervé Letellier, en l'occurrence, pour ce texte qui n'est pas théâtral à la base, qui est un roman circulaire, il s'est appuyé sur la sextine des troubadours. La sextine dans le sens 6, donc c'est une forme poétique du XIIe siècle qui est composée de 6 strophes de 6 vers et dans les, donc de 6 6 1, ça fait 36 vers.
D'accord.
Il y a un envoi à la fin de 3 vers, ça fait 39. Donc lui, il a construit son roman sur 2 sextines et on a ici 78 histoires, donc 78 narrations de relations sexuelles très très courtes, comme des mini petits courts-métrages extrêmement détaillés. Voilà, et en fait, c'est bon, sa contrainte est un peu compliquée et un peu maniaque, on pourrait dire, mais c'est vrai que ça donne un rythme et ça donne des échos entre les histoires dont on ne sait pas vraiment la raison, mais qu'on ressent dans le spectacle.
D'accord, donc pour résumer, pour faire une petite synthèse, justifié ou non, on verra, vous associez les formes très élaborées de la littérature occidentale, on a tous fait le sonnet quand on était au lycée, mais il y a d'autres structures poétiques, et vous associez à cela l'esprit, la philosophie du haïku japonais, qui se compose là aussi de manière très structurée, d'une petite pensée très courte et tout à fait intemporelle, et avec ces mini-histoires de sexe en l'occurrence, hein, puisqu'il est question d'amour. Mais surtout question de sexe, notamment, d'où le fait que je disais, vous ne reniez pas forcément le jeu de mots.
Non, pas du tout, évidemment. Le jeu de mots est tout à fait là pour indiquer le thème de la pièce.
Alors vous-même, Jeanne Béziers, ce n'est pas la première fois que vous venez au Festival d'Avignon, ce n'est pas non plus la première fois que vous venez à Osmose Radio. Vous étiez déjà venue l'an dernier présenter un de vos spectacles.
Oui, le spectacle de l'an dernier, c'était « Schittos vor Zwüstr ». Et c'était...
Mais vous pouvez répéter.
Chute aus Forstbüster. Alors c'était une adaptation musicale du Magicien d'Oz en langue scandinave fictive, dans laquelle nos personnages d'ailleurs de la chapelle Sixtine, qui sont des personnages qu'on retrouve en fait sur plusieurs spectacles, qui sont Cédric et Janine, une conférencière un peu décalée, on va dire, un peu décalée du monde réel.
Oui, j'aurais dit Sinoc. Ou...
voilà, bon, et son assistant, plus ou moins docile. Donc en fait, on avait ces deux personnages qui tentaient de faire le lien avec le public et de traduire, évidemment, alors en français ou en anglais, ce qui se passait sur le plateau, puisqu'on avait cinq chanteurs qui ne parlaient que Friesen, cette langue que personne ne connaît, hein, puisque personne ne connaît le Friesengard.
Donc vous avez repris les sonorités du vieux norrois, mais dans une langue un peu réinventée, imaginée.
Voilà, c'était, on avait vraiment inventé une langue fictive l'année dernière, et on essayait de traduire ça, sachant que les traducteurs ne comprenaient rien à ce qui se passait, donc c'était assez absurde. Cette année, on parle en français quand même. Donc je pense que même si on essaye de perdre savamment les gens au milieu de toutes nos histoires, malgré tout, ils comprennent un petit peu plus les paroles. Il y a des chansons aussi dans ce spectacle.
Vous arrivez à perdre le public, mais avec une langue qu'ils connaissent déjà, c'est d'autant plus pernicieux, permettez-moi de vous dire. Et notamment, vous avez travaillé, il y a différents aspects dans votre travail et dans votre parcours. Vous avez touché au théâtre, un petit peu à la danse. Il y a des installations vidéo aussi, par exemple, dans la mise en scène que vous faites de ce spectacle, La Chapelle Sixtine. Vous avez travaillé aussi un petit peu avec Émilie Valentin.
Oui, il y a très longtemps. J'ai travaillé
parce
qu'elle,
justement, est au spectacle, est au festival Villeneuve en Seine avec un spectacle de marionnettes tout à fait singulier, puisque c'est des marionnettes à taille réelle. Voilà.
Oui, non, mais Émilie Valentin, c'est une grande artiste que je respecte et que j'admire énormément. J'ai eu la chance de travailler avec elle à la sortie de l'école, c'est-à-dire que, bon, ça fait longtemps. J'ai fait l'école de Saint-Étienne, voilà, la Comédie de Saint-Étienne. Donc, ça fait très longtemps et j'ai eu la chance de travailler sur deux spectacles avec Émilie. Ça m'a apporté effectivement plein de choses. C'est vrai que j'aime beaucoup toucher un peu à tout. On n'est pas spécialement ni marionnettiste ni danseur. On est plus comédien. Disons, notre savoir-faire, c'est plus la comédie et le chant et la musique. La vidéo est arrivée après grâce à Cédric Carteau, qui est un animateur vidéo absolument magique, et qui fait du son aussi, ce qui est pas mal. Et il fait tout ça sur le plateau avec moi et en plus en me répondant. Donc il est complètement multi-usage.
Oui, parce qu'effectivement, vous parlez de différents personnages, donc par rapport à la Sixtine, il y a ce principe de mise en scène et d'écriture de la part d'Hervé Le Tellier qui s'est imposé beaucoup de contraintes et que vous avez peu ou prou suivi dans votre mise en scène. Et il y a différents aspects à ce spectacle, et c'est pour ça que je tenais à parler de votre parcours, parce que vous avez fait un peu de danse, et il y a quand même un aspect un peu chorégraphié dans le spectacle. Mais effectivement, ça s'articule quand même autour du jeu de comédien et au niveau de la musique, et donc vous êtes avec votre collègue Cédric Carteau, vous n'êtes quasiment que deux sur scène, je dis quasiment parce qu'il y a aussi une installation vidéo qui fait qu'il y a un troisième larron.
Oui, voilà, il y a Martin Mabs, Martin Bézier, qui est mon frère, qui est pianiste, compositeur, et voilà, on se retrouve de temps en temps pour travailler ensemble. Il se trouve que sur ce spectacle-là, on avait envie d'une bande-son, mais on avait envie qu'elle soit vraiment présente, c'est-à-dire qu'elle fasse vraiment partie intégrante de la scénographie. Et donc, on a eu l'idée comme ça, comme on accueille les gens un petit peu dans une espèce d'appartement de cette conférencière, appartement un petit peu bizarre avec un crocodile empaillé, des plantes vertes, enfin des choses comme ça. Et on tisse de la laine aussi. Enfin, à chaque fois qu'on raconte une histoire de rencontre, on tisse entre les deux personnages un fil de laine. Donc, autant vous dire qu'à la fin,
ça fait toile d'araignée.
La scène est très très encombrée, voilà. Donc on s'est mis nous aussi beaucoup de bâtons dans les roues pour essayer d'avancer plus vite, enfin d'avancer mieux, on ne sait pas très bien. Et donc Martin, il vit, le compositeur, il vit dans une télévision qui serait une sorte de vivarium dans lequel il y a des insectes, parce qu'il est question d'insectes aussi dans ce spectacle, peut-être j'aurai le temps de vous en parler. Donc il y a des insectes, de la verdure, tout un décor qui a été dessiné par un plasticien d'Aix-en-Provence, Michel Vautier. Donc on a un décor un peu entre Le Douanier Rousseau et peut-être Méliès, parce qu'il y a du découpage, des petites animations d'insectes. Et donc Martin vit au milieu de ça, donc il va, il vient, il a son piano qui est là, des fois il part se doucher, il revient, enfin, voilà. On le nourrit aussi sur le plateau, enfin, donc on a vraiment ce mini petit pianiste élevé comme ça et qui vit avec nous, donc c'est assez plaisant de chanter sur cet accompagnement-là, c'est assez étonnant.
C'est plutôt incongru en plus, mais bon, si vos références entomologiques sont celles de l'amante religieuse qui, elle, dévore ses amants en amour, vous me faites un petit peu peur.
On parle de l'amante religieuse, de l'amygdale, de la punaise, ce qui est du cafard, mais qui est un peu à la même sexualité que la punaise. Oui, on a mis des petites choses comme ça, un petit peu étranges au milieu pour donner un autre éclairage possible aussi à la sexualité.
Alors évidemment, ça peut paraître un peu bizarre, mais je me permets de rappeler cette citation de Desproges: j'ai plus de respect pour les enculeurs de mouches que pour les inventeurs de bombes à neutrons. Et vous parlez de sexualité, et l'accroche de votre spectacle, c'est: qu'est-ce que le sexe? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vie? Et à ces trois questions fondamentales, ce spectacle essentiel fournit une remarquable absence de réponse. Non mais alors...
Bah oui, évidemment, on va quand même pas pousser l'audace jusqu'à répondre à ces questions. En revanche, on se laisse atteindre par les questions et on s'en pénètre, si je peux dire.
Et de toute manière, on ne trouvera jamais les réponses à ces questions. On se les pose depuis le début de l'humanité. Donc, ce n'est que modestie de tourner les choses comme ça, avec humour. Un humour qui tient aussi à la personnalité d'Hervé Le Tellier, qu'on peut retrouver, qui est un peu un confrère en quelque sorte, puisqu'on peut le retrouver sur France Culture dans l'émission Des Papous dans la tête.
Oui,
et donc lui s'est imposé beaucoup de contraintes d'écriture, et je reviens à ce terme de chapelle sextine, qui donc correspond à une forme poétique des troubadours, comme vous le rappeliez tout
à l'heure.
Alors
si je peux me permettre, c'est une contrainte que j'explique au début du spectacle, parce que c'est drôle de rentrer un petit peu dans la construction et dans la jubilation de cette construction justement un petit peu méticuleuse, on va dire. Mais en fait on n'entend absolument pas... C'est très invisible, parce qu'en fait, il a pas du tout fait rimer des mots. Il a fait en fait rimer des parties du corps, des lieux, des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, la sextine, ça fait 36 vers. Donc, mettons qu'on dit une histoire est un vers.
D'accord.
On prend comme si chaque histoire était un vers. Donc, on a 78 histoires comme si on avait 78 vers. Sauf que, en fait, dans une histoire, plutôt que d'avoir des mots qui se répètent et qui permutent, parce que la sextine, c'est une forme qui permute, en fait. C'est des mots qui permutent d'une strophe à l'autre.
D'accord.
Et là, en fait, ce qui va permuter, c'est pas des mots, c'est des parties du corps, des lieux, des personnages. Donc, en fait, ce qu'on va entendre se répondre, mais sans y faire vraiment attention, c'est effectivement, je sais pas moi, une histoire qui commence par l'épaule, par la jambe, par les pieds, qui va se passer sur un oreiller, sur un drap, je sais pas, en ouvrant des rideaux, voilà. Et donc, ce qui va se répondre, c'est ça, mais on l'entend, enfin, ça fait des échos, mais on peut pas vraiment le percevoir. Enfin, c'est impossible de le percevoir, d'autant plus que j'ai pas le temps de citer les 78 histoires, donc j'en fais le maximum et je tisse quasiment 78 fils, je pense. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une contrainte. À l'Oulipo, parfois, il y a des contraintes très visibles dans la disparition de Georges Perec, où la lettre E est absente de tout le roman. Bon, bah voilà, là, c'est tout à fait visible et lisible. Et en plus, il y a du fond avec, puisque c'est la disparition de ses parents aussi dont il s'agit. Mais là, c'est vrai que c'est une contrainte extrêmement cachée. Les contraintes les plus visibles sont celles qui sont en plus. C'est des petites contraintes supplémentaires dans chaque histoire. Par exemple, utiliser tous les termes pour parler de la poitrine. Donc là, on utilise le terme de balcon, tout un tas de termes qui parlent de la poitrine. Ou alors, utiliser que des termes latins. Les stufafria de Lisbonne résonnent des chants mélodieux, des arae, araraonae. Voilà. Donc ce genre de contraintes, on les entend. Et on entend de toute façon... qu'on entend qu'il y a des jeux avec la langue. Voilà. Enfin, je ne parle pas au sens propre.
Alors là, vous vous êtes vendue toute seule. Il y a des jeux avec la langue, eh bien, on entend ça, on comprend ça comme on voudra. Et c'est vrai que vous le dites différemment que je ne l'aurais fait, mais c'est un peu ce qui m'avait intrigué dans ce spectacle. À la fois une rigueur toute mathématique dans le fait de permuter des mots, etc., qui est un procédé quasiment scientifique à certains égards. Et il y a cette rigueur, et puis en même temps, le côté sensualité du fait d'utiliser des termes, par exemple des synonymes de la poitrine, forcément ça évoquera quelque chose au spectateur. Et dans ces contraintes d'écriture qui tiennent aussi à la forme politique, poétique.
C'est politique aussi, finalement.
Le sexe peut souvent avoir des implications politiques. Hein. À l'époque où la libération de la femme est un petit peu remise en cause, on en est tout à fait conscient. Mais pour ce qui est de votre spectacle, il y a une forme poétique qui parfois me rappelle, d'autant plus que c'est une forme poétique qui vient de l'époque des troubadours, me rappelle un petit peu l'alchimie. Et dans ses références, il fait de la conférencière qui est au centre de votre spectacle. Hervé Le Tellier fait de la conférencière un petit peu la prêtresse du plaisir. Et de la même manière qu'il y a un Eros géométrique, comme vous le citiez hors antenne, eh bien, les alchimistes avaient Hermès Trismégiste, qui était un petit peu le messager entre le monde des dieux et le monde des humains. Et vous avez l'Eros géométrique. Alors, je ne sais pas s'il a tout à fait le même rôle dans votre spectacle ou dans votre élaboration du spectacle.
Écoutez, je ne sais pas. C'est vrai que, évidemment, le spectacle n'est pas que mathématique, sinon ce ne serait pas très théâtral, et qu'on se laisse atteindre, en fait, par cette espèce d'art combinatoire qui vient répondre à la monotonie de l'acte sexuel. Et donc là, on essaye de conjurer, en fait, de conjurer cette répétition de l'acte sexuel qui revient pratiquement au même, en fait, à chaque fois, par un art combinatoire et par le fait de prononcer des mots interdits comme ça, d'en prononcer le plus possible et d'essayer de se laisser atteindre par ça. Et je pense qu'effectivement, la conférencière et son assistant sont tout à fait pour eux à tout ce langage-là et finissent pas dans le même état qu'ils ont commencé, ça c'est sûr. Et il y a aussi des petites chansons qui viennent ponctuer le texte, qui sont des chansons dont on a décidé, c'est moi qui les ai écrites, et on a décidé avec Hervé desquelles on allait mettre dans le spectacle. Et c'est des chansons qui répondent dans le sens où elles sont complètement écrites à l'inverse. C'est-à-dire que c'est des... Moi, c'est ce que j'appelle des chansons de voiture. C'est des chansonnettes qu'on chante un peu à tue-tête dans la voiture, mais qui n'ont pas une grande ambition. C'est vraiment de la chansonnette. Et en fait, c'est des chansons à état d'âme. C'est-à-dire que c'est le contraire. Les histoires sont plutôt cliniques, plutôt froides. Enfin, voilà, ce sont des descriptions. Et au milieu de ça, il y a des petites chansons dans lesquelles, justement, on va se laisser un peu aller qu'on est un peu enthousiaste, qu'on est amoureux, qu'on est... Enfin, voilà. Et c'est des chansons très courtes aussi. C'est des formes de chansons d'une minute, de la même manière que les histoires. Et c'est des chansons dans lesquelles la conférencière finit par se livrer quand même un petit peu.
Ah, moi, je ne sais pas chanter, donc si on va en voiture tous les deux, ça va être compliqué. Mais si vous voulez, je peux réciter des poèmes, des Sextines par exemple, hein, puisque vous venez d'apprendre cette forme poétique que je ne connaissais pas. Alors, on se souvient de cette sentence du poète latin, post coitum anima triste, hein, après l'amour, l'âme est triste. Mais bon, je ne pense pas que vous serez triste après avoir vu le spectacle musical de Jeanne Béziers, La Chapelle Sextine, une référence poétique, et en même temps ça parle d'amour et de choses très terre à terre, et d'un sujet très sensuel, mais avec une idée un petit peu mathématique, rigoureuse, scientifique, voire spirituelle, parce que La Chapelle Sextine, telle que l'avait peinte Michel-Ange, est aussi une aspiration à l'élévation spirituelle. C'est aussi notamment le cas dans le sexe que vous pratiquez, qui est peut-être, quand vous n'écoutez pas Osmose Radio, chers amis, c'est le cas. Donc c'est ce spectacle, L'Entrepôt, à 21h30 jusqu'au dimanche 23 juillet. Vous êtes satisfaite de cette semaine que vous passez à Avignon ?
Oui, je trouve que c'est un Avignon très agréable. Je trouve qu'il y a du monde, la température est tout à fait délicieuse. Et puis à L'Entrepôt, on est vraiment... Moi j'étais là l'année dernière et on est vraiment extrêmement bien accueillis. C'est vrai que les conditions... Après, on ne sait pas toujours que les conditions de... Pour les artistes à Avignon, c'est pas forcément évident. C'est très compliqué de faire le Festival d'Avignon. Il faut à la fois être choisi, à la fois avoir aussi de l'argent, à la fois avoir aussi des relations. Enfin, c'est toute une osmose. Hein,
oui, il y a de l'aspect business.
Et c'est vrai qu'à L'Entrepôt, moi je suis une compagnie régionale, donc je suis accueillie dans le cadre des rendez-vous de L'Entrepôt et en partenariat avec la région PACA. Et donc c'est vrai qu'on est accueillis dans des conditions un peu exceptionnelles et vraiment très agréables. Donc, c'est un Avignon très plaisant.
Très bien, mais tant mieux pour vous, et je le souhaite aussi que ce soit pour les spectateurs de votre spectacle, les spectateurs de votre spectacle ou les auditeurs de cette émission, La Chapelle Sextine à 21h30 à L'Entrepôt. Merci Jeanne Béziers d'être venue nous parler de ce spectacle, et puisqu'on parlait de Sextine, eh bien quelqu'un qui ne connaissait peut-être pas la poésie des troubadours mais qui était un redoutable trouvère lui-même, c'était Chuck Berry qui nous chantait Sweet Little Sextine. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she just got to have about a half a million a famed autographs. Her wallet filled with pictures,
she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay.